Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine, je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si tu as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors, assis-toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Ça fait du bien de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Je reviens un peu à ce que je faisais avant, ce que je faisais quand j'ai lancé ce podcast, c'est-à-dire il y a à peu près un an. C'est une discussion un peu à la cool, sans filtre, où je vais partager, passer en revue mes découvertes. Donc je me suis un peu creusé la tête pour ça, j'ai essayé de trouver des noms qui allaient être assez cool, et j'ai trouvé le nom Espresso. Voilà, donc c'est un peu l'idée, tranquillou, à la machine à café, de discuter de sujets qui m'ont marqué ce mois dernier. Donc encore une fois, c'est un test, je reviens un peu à ce que je faisais avant. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, sur n'importe quoi, parce que c'est un peu le problème avec le podcast, c'est qu'on n'a pas vraiment de retour de ce qu'on fait en termes de contenu, on n'a pas forcément trop de messages, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous trouvez ça cool, comme ça j'en referai. Et du coup aujourd'hui on va parler de plein de sujets qui m'ont marqué ce mois-ci. On va parler un peu d'actualité, de quelques trucs que j'ai découverts et de quelques trucs que j'ai vécu, parce que je suis rentré du coup en France depuis le Japon, donc il y a de ça un mois, et je vais essayer de vous partager un peu comment ça s'est passé mon retour en France, comment est-ce que je me suis réhabitué, parce que c'est un gap qui au final j'ai peut-être un peu sous-estimé, le gap de passer du Japon pendant un an qui était totalement déconnecté du reste du monde avec le Covid à la France, et ça fait un choc assez brutal, mais j'en parlerai après. On va aussi un peu parler de Clubhouse et de ce que je pense de Clubhouse, et peut-être que vous allez vous retrouver dans certains points. Je vais dire un peu ce que j'aime pas, ce que j'aime bien, et ce qu'il y a comme opportunité à saisir sur Clubhouse. Je vais parler un peu de création de contenu aussi, de comment est-ce que on peut consommer du contenu. Parce que j'ai un ami qui m'a récemment parlé du fait qu'il trouvait qu'il avait trop de newsletters, qu'il avait trop de contenu à consommer, et même moi en étant créateur de contenu, c'est vrai que maintenant, et c'est peut-être aussi lié un peu avec l'arrivée de Clubhouse, etc., il faut apprendre à filtrer un peu le contenu qu'on a, parce que sinon c'est assez facile de finir sous l'eau, d'overdose de contenu, parce que on essaye à chaque fois d'avoir les meilleurs trucs, les derniers trucs, et du coup on s'inscrit à des newsletters, et au final dès qu'on en a plus de 10, on les lit plus, et voilà, et on finit sous l'eau avec trop d'articles. Donc il faut vraiment faire attention à bien saisir ce qu'il faut saisir justement, et pas être attiré par le bruit, parce que voilà, quand on essaye de découvrir des choses, quand on essaye d'apprendre des trucs, c'est très facile d'avoir une espèce d'envie de trop de contenu, et petit à petit on finit sous l'eau avec trop de newsletters. Donc on va parler de ça, de comment est-ce que j'ai fait pour réduire un petit peu, et on va aussi parler du fait de pourquoi est-ce que c'est cool d'être tout en bas de l'échelle. Donc moi j'ai commencé ma chaîne YouTube, et la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que je suis tout en bas de l'échelle, vu que j'ai commencé, j'ai 2 vidéos. Et pourtant, j'aurais pu me dire que, évidemment, c'est le début, que j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Mais j'ai essayé de prendre le contre-pied de ça, en disant que voilà, je suis tout en bas de l'échelle, maintenant faut prendre du plaisir à être tout en bas de l'échelle, et je vais essayer de vous donner des points un peu positifs à ça, en essayant de vous inspirer vous aussi à créer votre chaîne YouTube, ou créer votre newsletter, ou créer votre podcast. Bref, moi c'est mon but, c'est que vous puissiez créer des trucs, peu importe que ce soit des projets, que ce soit du contenu vraiment n'importe quoi. Le but, c'est juste de créer, de partager, de s'amuser. Et à la fin, je finirai avec les découvertes du mois. Donc, c'est un peu tous les outils pêle-mêle que j'ai trouvé ce mois-ci. Ça va du divertissement à la productivité, à plein de trucs. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout si vous voulez voir les découvertes du mois. Je pense que ça va être hyper intéressant. Alors moi, je vous propose de commencer avec Clubhouse, parce que Clubhouse, c'est un sujet qui a un peu défrayé la chronique. Tout le monde en parle, tout le monde. Il y a eu une énorme traîne là-dessus où il y avait énormément de gens qui cherchaient des invitations, qui étaient sur Android et qui n'avaient pas accès parce que l'app est uniquement sur iOS. Et pour ceux qui découvraient Clubhouse dans cet épisode, Clubhouse, c'est une plateforme, c'est un réseau social, entre guillemets, où il est possible de créer des rooms, donc des salons vocaux, donc ça marche que à la voix, et ce salon, vous pouvez l'ouvrir soit à juste à un nombre limité de personnes, soit vous pouvez l'ouvrir à tout le monde, et le but du jeu, c'est qu'il y ait des gens qui passent dans votre room et qui puissent interagir avec vous, donc c'est une sorte de podcast avec des invités, qui fait un peu aussi radio libre, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Et sur l'idée, vraiment sur le principe, je trouvais ça vraiment super cool. C'est super cool de laisser la parole aux gens, de laisser la parole à n'importe qui, de pouvoir intervenir. Moi, vraiment, je trouve ça très très bien. Mais il y a beaucoup de points que j'ai pas aimé et ça m'a amené même jusqu'à la désinstallation de Clubhouse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va s'intéresser un peu aux points positifs de ce que ça apporte. Et le premier point que je vois dans Clubhouse, c'est que ça permet aux gens de s'exprimer. Et ça, c'est super important, surtout en ce moment, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses idées, de débattre. Nous, les Français, on est les champions du monde du débat, on aime débattre. Et le fait de ne pas pouvoir se retrouver au bistrot pour débattre de n'importe quoi, du match de foot de la veille ou ce genre de truc, et ben ça quelque part ça nous frustre, et je comprends que voilà, si on n'a pas la possibilité d'appeler ses amis tous les soirs ou ce genre de truc, on peut avoir la volonté de s'exprimer. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça permet à n'importe qui de s'exprimer, et que ce soit les créateurs ou les auditeurs. Et en ça, je trouve que Clubhouse, c'est un truc qui change vraiment les règles et qui est assez incroyable. Deuxième point, c'est que ça casse les barrières. Et ça, c'est vraiment cool d'être au même niveau que n'importe qui. Il y a des rooms où n'importe qui peut parler, et puis d'un bonjour, il y a Elon Musk ou Xavier Niel qui vont passer par là et qui vont écouter tranquillou la discussion, si ça leur plaît, si voilà. Et ça, je trouve ça vraiment hyper cool. C'est un peu comme Twitter où vous avez la possibilité d'interagir un peu avec n'importe qui. Vous êtes à un message d'être tweeté et c'est le prolongement un peu vocal de Twitter. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près au même niveau. Il n'y a pas forcément encore d'algorithme, de monétisation qui met en avant certaines personnes par rapport à d'autres. C'est vraiment free flow. C'est tout le monde est au même niveau. Tout le monde a la possibilité de créer des rooms, etc. Et c'est en grande partie ce qui a fait le succès, c'est que ça rebat les cartes, et ceux qui ont joué le jeu de Clubhouse, ils l'ont joué à fond et ils sont constitués une audience comme sur n'importe quel réseau social qui boom. Moi, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait parce que tout simplement, en fait, je trouvais pas trop l'aspect live me gêne un peu, et vu que moi personnellement, je suis pas forcément fan de Clubhouse, je me suis dit que j'avais pas créé de contenu. C'est un parti pris. Il y a des gens qui sans doute vont prendre le parti pris de créer de tout baser sur Clubhouse. Il y a notamment un feed qui fait énormément de trucs sur Clubhouse, qui a vraiment l'envie de creuser ce truc, mais moi c'est pas mon truc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je trouve qu'il y a trop de bruit. Et dans un monde où il y a déjà pas mal de bruit, Clubhouse, ça amène énormément de bruit, dans le sens où, ok, on peut aller voir des rooms qui nous plaisent plus ou moins, mais il y a trop d'incertitudes sur la qualité des rooms, etc. Et ça prend déjà énormément de temps de capter ce dont on parle, mais en plus, quand on arrive en cours de route, qu'on s'est pas mis, quand on s'est logué, mais après, qu'on n'a pas fait attention à l'heure, etc. Voilà, si on rate le rendez-vous, moi, je mettais du temps à rentrer dans les rooms, à rentrer dans les discussions, à comprendre de quoi on parle, et voilà. Et moi, je suis beaucoup plus amateur du podcast, parce que tout simplement le podcast on peut l'écouter quand on veut, on peut l'écouter quand on fait du sport, en épluchant les carottes, voilà, il y a vraiment une liberté absolue. Et c'est ce qui me dérange un peu avec Clubhouse, c'est qu'il y a un rendez-vous, et pour moi ça tue la productivité parce que vous calquez un peu votre emploi du temps sur l'emploi du temps des autres, et en productivité c'est un peu le truc à pas faire. Et pour cette raison je trouve que par rapport à la qualité des rooms, ça valait pas forcément toujours le coup. Il y a évidemment des rooms qui sont hyper quali avec des infos vraiment incroyables qu'on trouverait pas forcément ailleurs, parce que les gens se lâchent, les gens sont tous, enfin, ils ont pas de barrière et du coup bah ils se lâchent beaucoup plus, c'est un des avantages aussi, c'est beaucoup plus sincère, même encore plus que le podcast, ça fait un peu radio libre sous la couette quand on a 14 ans. Voilà, c'est cet aspect qui est vraiment hyper cool, hyper chaleureux, qu'on retrouve pas forcément toujours dans le podcast, où parfois ça peut être un peu tiré par les cheveux, les gens sont un peu, ils sont un peu tout droits en bâton. Et ben là, sur Clubhouse, justement, on casse toutes ces barrières. Mais le problème, c'est que on n'est pas toujours bien préparé. Parfois, on peut faire une room pour le rendez-vous, ça c'est ce qui se met en place beaucoup, c'est des rooms qui sont, toutes les semaines on va parler d'un sujet, mais évidemment, le nombre de sujets duquel on doit discuter, on n'a pas forcément toujours autant d'informations à divulguer, le débat il est peut-être pas toujours aussi constructif, et moi c'est ce qui me gêne un peu, c'est que parfois on peut avoir un truc qui nous intéresse, mais le contenu entre guillemets de la room n'est pas forcément hyper adéquat avec nos attentes, et moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai ressenti en me baladant sur Clubhouse. Il y a aussi un peu un problème sur le filtrage, et évidemment c'est parce que c'est une application qui est hyper jeune, mais on peut pas filtrer une room en fonction de l'intérêt. Donc on peut sélectionner des pseudo-intérêts au début, mais les filtres sont assez vagues au final, et vu qu'il n'y a pas encore trop de monde, c'est difficile d'avoir des rooms qui nous intéressent vraiment. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, c'est j'ai pas trouvé de room qui m'intéressait tellement au point que je réserve un créneau dans mon agenda où je me dis ok, à cette heure là il faut que j'ouvre Clubhouse, il faut que j'aille là-dessus. Et du coup pour moi c'est un peu un FOMO du vide, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont sur Clubhouse pour en tant que créateurs, et du coup qui font beaucoup de bruit autour de ça, et il y a des gens qui écoutent, mais c'est chacun est libre d'écouter comme il veut. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une partie un peu FOMO, où il y a beaucoup de rendez-vous qui au final sont pas si préparés que ça, ça finit un peu en bordel parfois, où il y a beaucoup trop de monde qui parle, où c'est presque inaudible, etc. Parfois il y a des gens qui ont des micros pourris, enfin voilà, je trouve que c'est un peu c'est le charme un peu des vieilles radios libres à mon avis quand ça s'est lancé, c'était avant que je naisse, donc j'ai pas connu cette époque, mais voilà, il y a un côté un peu bidouillage qui me plaît pas forcément, parce que moi j'aime bien suivre les créateurs que j'aime bien, et j'aime pas forcément suivre tout le monde, et du coup c'est difficile de filtrer. Donc quand on prend une heure de son temps et qu'au final on se rend compte que la room elle était pas ouf, c'est ce qui me dérange un peu. Par exemple si on compare avec le podcast on peut avancer si jamais le contenu nous intéresse pas, voilà, on a beaucoup plus de liberté sur ce qu'on veut écouter, ce qu'on veut pas écouter, alors que Clubhouse c'est du rendez-vous. Et pour un peu conclure avec Clubhouse, en gros, pour moi, c'est vraiment la digitalisation des conférences. C'est, il n'y a plus de conférences, du coup, on a fait un moyen de faire les conférences. Et les conférences, il y a plusieurs typologies de personnes qui y sont, mais il y a aussi des typologies de personnes qui y sont pas. Et moi, je fais partie des gens qui aiment pas trop les conférences parce que ça prend du temps. Et certes, c'est si on a besoin de rencontrer quelqu'un, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, si jamais il y a un créateur que j'aime beaucoup qui fait une conférence, bah, peut-être que j'irai. Mais en tout cas, sur le principe des conférences même, c'est pareil, souvent on trouve des pépites, notamment je pense aux conférences de The Family il y a quelques années qui étaient vraiment hyper bien, hyper intéressantes, mais parfois c'est peut-être juste pour que la personne qui organise la conférence vende sa solution ou des trucs comme ça, et je trouve que sur Clubhouse c'est un peu ça. Parfois il y a quand même des trucs vraiment intéressants, mais parfois c'est assez limité en termes de vraiment de contenu à apprendre. Et justement, je trouve que ce FOMO du truc, c'est un peu les gens qui vont toujours à toutes les conférences, qui écoutent toujours tout, qui ne veulent rater aucune miette, et au final, voilà, qui appliquent pas forcément ce qu'ils apprennent, ou alors qui ils vont juste pour s'éveiller. Mais moi, c'est pour ça que j'ai désinstallé Clubhouse au final, c'est parce que je trouvais qu'il y avait plus de trucs, ça faisait du bruit, il y avait beaucoup de notifications, voilà, on avait toujours le FOMO de rater quelque chose, et je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais très bien sans, et je vivais encore mieux avec des podcasts de qualité. Donc voilà, je trouve que Clubhouse a un intérêt, mais si vraiment c'est pour chiller, pour comme si on écoutait la radio... Et en fait, c'est un peu ça le paradoxe, c'est que je pourrais vraiment utiliser Clubhouse pour des sujets vraiment détente, mais j'ai l'impression que c'est quand même devenu un peu un fourre-tout marketing. Et si on a envie un peu de se détendre, on n'a pas forcément envie d'écouter des tactiques marketing à 22h. Bref, voilà, tout ça pour conclure sur Clubhouse. Moi, c'est pas mon truc. J'espère que vous, si c'est votre truc, vous trouviez de l'intérêt. N'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me ferait très plaisir de débattre avec vous sur ce que vous pensez de Clubhouse, parce que je suppose qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi. Mais en tout cas, moi, ma vision de Clubhouse, c'est que je trouve qu'il y a plus de bruit que vraiment de contenu qualitatif. Pour l'instant, ça peut encore changer. Mais voilà. Alors maintenant, je vous propose de passer à la partie curation de contenu. Donc la curation de contenu, évidemment, ça rejoint un peu Clubhouse. Il y a énormément de bruit, il y a énormément de newsletters. En 2020, je pense qu'on a explosé le nombre de créateurs de contenu, le nombre de contenus en gros. Et comment est-ce qu'on peut filtrer dans tout ça, dans tout ce bruit? Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est choisir un endroit. Donc vous allez prendre un endroit et ça va être votre base de là où vous allez consommer tout votre contenu. Et que ce soit des articles, que ce soit des newsletters ou que ce soit des vidéos, je vous invite vraiment à prendre un endroit où vous allez mettre tout votre contenu. Et vous allez passer à travers, et etc. Et je pense qu'il y a un bon outil pour ça, c'est Feedly. Alors avant, j'utilisais Stupinbox et d'ailleurs, je l'avais conseillé sur ce podcast. Stupinbox qui était un truc qui permettait de réduire les newsletters juste dans sa boîte email en ayant une adresse theo@stupinbox.com. Et du coup, ça vous permettait de les recevoir dans une app dédiée plutôt que de les recevoir par email. Et moi, je me suis rendu compte qu'au final, Stoop était très bien, mais il me manquait cette partie un peu article parce que Stoop faisait les vidéos et les newsletters. Et il manquait les articles et j'aimais pas avoir deux trucs différents. Donc, j'ai tout rebasculé sur Feedly en utilisant un truc qui s'appelle Kill the Newsletter. Et c'est pareil, c'est comme Stoop, ça permet juste, ça transforme en fait les newsletters en flux RSS. Donc flux RSS, c'est un peu les trucs qui étaient utilisés par les blogs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel article de blog, vous le receviez, voilà, c'était comme une espèce de donnée qui était envoyée. Et voilà, donc ça transforme une newsletter en article de blog, entre guillemets, et sur Feedly, vous pouvez gérer tout ça. Donc vous pouvez gérer des articles de blog, vous pouvez gérer des newsletters et des vidéos, parce que le flux d'une chaîne YouTube, c'est aussi un flux RSS. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de prendre Feedly et de concentrer tout ce que vous avez en termes de contenu au même endroit. Et ensuite, une fois que vous êtes dans Feedly, vous prenez un outil qui vous permet de lire plus tard. Alors, soit vous utilisez Notion et vous l'avez dans votre database sur Notion de contenu, soit vous utilisez un truc qui s'appelle Pocket, qui est très connu. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cet outil et c'est un truc qui vous permet de lire les articles plus tard. Et en fait, c'est très intéressant de tous les jours ou tous les deux jours aller voir toute votre liste de contenu. Vous regardez un peu en travers ou vous regardez un peu le titre et les premières infos pour voir si ça peut vous plaire. Si ça vous plaît, vous les mettez dans votre Pocket ou dans votre Notion. Si ça vous plaît pas, vous les mettez pas, vous les mettez en lu, et ça permet vraiment de filtrer tout le contenu et de pas être, par exemple, si vous allez sur YouTube, de pas être tenté d'aller regarder les autres vidéos. Voilà, ça permet juste d'avoir une concentration de contenu. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir sur mon ordi, donc j'ai la moitié de l'écran qui est sur Feedly et l'autre moitié de l'écran qui est sur Obsidian. C'est le truc que je prends pour prendre des notes, et voilà, j'essaye de prendre des notes quand ça me vient rapidement. Alors je le fais pas tout le temps, hein, mais j'essaye de le faire quand j'ai envie un peu de nourrir mon contenu. Voilà, je fais ça. Et cette méthode marche plutôt bien, donc pour l'instant je suis assez satisfait. Ça marche assez bien avec de faire ça. J'aimerais bien pouvoir envoyer des articles directement sur Obsidian, mais il n'y a pas de moyen de le faire. Ils n'ont pas une API ouverte ou autre. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y a un dernier truc, c'est moi je vous l'avais déjà conseillé, même si je suis assez adepte des livres papier, j'aime bien toucher le papier. Mais il faut avouer que quand on consomme du contenu, c'est quand même hyper intéressant aussi de l'avoir pour le garder. Et j'ai remarqué que, alors vous pouvez évidemment le faire avec OCR, donc c'est la technologie qui permet, par exemple, vous prenez une photo avec Evernote, vous prenez une photo, ça va reconnaître le texte et ça va l'importer. Mais le meilleur moyen, c'est d'utiliser un truc qui s'appelle Redwise. Alors Redwise, il y a beaucoup de gens qui en parlent, si vous suivez des créateurs, c'est un outil qui est assez intéressant, dans le sens où vous allez pouvoir capturer des tweets, vous allez pouvoir capturer des surlignages sur votre Kindle, et vous allez pouvoir tout envoyer dans Notion ou là où vous voulez, et c'est très intéressant parce que ça permet de sauvegarder l'information et de pouvoir tout concentrer au même endroit. Et du coup, si vous arrivez à avoir, c'est pour ça que Notion est une bonne solution, si vous arrivez à prendre les articles que vous avez lus dans votre pocket et les mettre dans Notion et avoir aussi vos citations que vous avez lues dans Redwise et vos tweets que vous avez sauvegardés, vous pouvez vraiment concentrer tout votre contenu. Alors après, le problème de Notion, par exemple, c'est que pour retrouver le contenu et pour essayer de s'en inspirer pour vous créer du contenu, bah ça va être assez compliqué. Donc pour l'instant il n'y a que ça qui existe, mais ils sont encore un peu limites sur les fonctions de recherche, c'est assez difficile de trouver l'information. Mais voilà, c'est un peu, je voulais vous partager ça parce que c'est une bonne stratégie pour retrouver du contenu, pour faire votre curation de contenu sans être noyé sous la masse. Donc essayez d'avoir juste un endroit où vous avez tout votre contenu, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Ensuite, on va parler du troisième sujet du jour, c'est le retour en France. Alors ça, c'est un truc un peu plus perso, mais c'est très intéressant, peut-être si jamais vous avez envie d'aller à l'étranger. Le retour en France a été assez difficile, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le décalage culturel entre le Japon et la France est assez incroyable. Ça m'a fait très bizarre les premiers jours de voir les Français qui, au final, on s'en rend pas compte. Et moi, j'étais le premier. Je suis pareil. Hein. Je suis pareil quand je marche dans la rue, mais les Français font la gueule quand on compare avec les Japonais. On fait quand même pas mal la gueule quand on marche, voilà. Et au final, ça m'a fait très bizarre de passer des Japonais qui sont hyper souriants, etc. Enfin, ils sont pas tous très souriants, mais ils sont en moyenne assez souriants aux Français, aux Parisiens. Donc voilà, ça m'a fait un peu bizarre de ce côté-là, juste humainement, on va dire. Et après, professionnellement, il y a aussi 2-3 trucs qui ont impacté. C'est qu'à partir du moment où je suis arrivé en France, c'était comme si j'avais eu une coupure créative où j'avais plus rien qui se passait dans mon cerveau. J'arrivais pas, j'avais plus d'essence soit pour écrire des newsletters, soit pour faire du contenu. J'avais un manque de créativité qui était criant, et je pense que ça, c'est dû tout simplement au fait que quand on est en permanence à l'étranger, quand on se nourrit de culture, d'expérience, qu'on arrive à faire des points, des liens entre des trucs, entre sa culture et la culture dans laquelle on est, pour moi c'était la culture japonaise, on arrive justement à avoir cette créativité. C'est un peu comme si vous tapez deux silex l'un contre l'autre, deux cultures différentes, et ça fait des étincelles. C'est un peu ça moi, que j'avais pendant toute cette année. C'est pour ça que j'ai réussi à faire plein de trucs pendant l'année dernière. Et quand je suis arrivé en France, c'est comme si on m'avait enlevé un des deux cailloux, et je me retrouvais du coup avec mon caillou, et j'ai essayé de faire du feu, mais c'était un peu dur. Et au final, je me suis rendu compte que vraiment le fait de rentrer en France, ça me bridait ma créativité. Et il y avait aussi cette syndrome un peu de l'imposteur qui est réapparu, comme s'il avait disparu totalement pendant un an, parce que de toute façon au Japon on est un peu coupé de ça, et qu'il était réapparu dès que je suis rentré. Donc là pour l'instant ça va mieux, surtout que je pars la semaine prochaine dans un autre pays, donc voilà, ça va m'aider. Mais c'est hyper intéressant la façon de voir le retour, parce qu'en fait quand on va quelque part, on se rend pas forcément compte de l'apport créatif qu'on a, parce que ça vient au fil du temps. C'est pas on arrive dans un autre pays et waouh, tout de suite on est créatif, mais on se rend compte petit à petit que plus on avance, plus on a des idées, etc., plus on voyage et plus ça nous nourrit. Et quand on rentre en France, on voit l'énorme décalage qu'il y avait entre la capacité à créer quand on est ailleurs et quand on est en France. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de créer des choses, je vous recommande d'aller à l'étranger, ça vous donnera plein d'idées. Évidemment, on est tous dans la même situation, on est tous un peu bloqués, mais le jour où ça réouvre, j'espère le plus vite possible, n'hésitez pas à aller loin pour vous nourrir de cultures différentes, d'idées différentes sur la vie, sur comment est-ce qu'on vit en communauté. Voilà, c'est vraiment, il n'y a que des avantages à partir. Et on apprécie d'autant plus quand on revient, même s'il y a un temps d'adaptation, surtout quand on vient du Japon. Voilà, donc ça c'était pour la partie retour en France. Et maintenant, le dernier point, c'est le fait d'être tout en bas de l'échelle. Donc ça, c'est ma situation actuelle sur YouTube. J'ai lancé un truc sur YouTube et je suis tout en bas de l'échelle. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de le prendre mal ou de dire que voilà, je suis tout en bas, de regarder d'autres créateurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, et ben au final, moi je me complais assez bien dans ce truc de gars qui arrive, et parce que j'ai rien à perdre en fait. C'est assez cool d'être au tout début, j'ai que à apprendre des trucs, et en fait cette situation, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus difficile à vivre que ça. Mais en fait, elle est très très agréable parce que on n'est pas encore un wannabe à commencer à avoir une petite audience, mais à vouloir qu'elle grossisse. Et on n'est pas non plus un gros créateur de contenu avec des dizaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Donc voilà, moi je suis vraiment au top. Je m'amuse, j'essaye de faire des trucs, j'ai la liberté créative, parce que de toute façon, si je fais une vidéo pourrie, pas grand monde la verra, puisque je suis pas encore très visible sur YouTube. Et à la rigueur, s'il y en a une qui marche bien, j'ai tout à gagner. Donc pour l'instant, je suis vraiment dans une logique hyper positive, et voilà, je voulais partager ça parce que on a souvent des idées reçues avant de commencer. On se dit, ah ouais, mais ça va être difficile, ça va mettre du temps, etc. Et au final, c'est un peu la même réflexion que j'ai avec le sport. C'est au départ, c'est super difficile le premier jour, et puis après 2 semaines, on commence à s'y faire. Et ça, c'est rentré dans nos habitudes. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire, de transformer un peu les vidéos YouTube et tout le contenu que je crée sur YouTube dans mes habitudes. Et voilà, et juste que ça vienne comme ça, que ce soit une vidéo. Moi, ça me fait kiffer de faire des vidéos. Même si elles sont pas beaucoup vues, je sais que c'est de l'effort cumulé et que au bout d'un moment, ça sera de plus en plus visible. Mais je me contente vraiment de kiffer, de faire mes petites vidéos. C'est à ce moment-là qu'on peut faire le plus de trucs, parce qu'arrivé à un certain moment, quand on a une audience, on est un peu bloqué sur le type de contenu qu'on peut faire. Donc là, liberté totale, je me fais kiffer. Voilà. Donc c'était juste pour parler un peu de trucs positifs. Si jamais vous posez des questions sur est-ce que vous devez créer ou pas, lancer une chaîne YouTube, lancer une chaîne Twitch, lancer un podcast, n'hésitez pas, parce que quand on est tout en bas, on a tout à gagner et rien à perdre. Et enfin, je vais passer à la fin de ce podcast avec les découvertes du mois. Donc ça, c'est mes petites découvertes, les petites pépites que j'ai trouvées ce mois-ci, et je vais toutes vous les lister une par une, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez, soit par email, soit comme vous voulez, mais je pense que ça va vous plaire. La première pépite que j'ai trouvée, c'est un truc qui s'appelle Uptime. Alors ça, c'est que pour les anglophones, donc désolé si vous ne parlez pas anglais, j'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais ça s'appelle Uptime. Alors Uptime, c'est des petits résumés de contenu qui sont assez digestes, donc qui sont sous forme de story, et en fait vous pouvez juste swiper les stories et lire un résumé de livre en 5 minutes ou un résumé de TED Talk ou de cours en ligne. Voilà, c'est vraiment, ils prennent du contenu, ils le mettent de manière digeste sous forme de story, et voilà, donc vous pouvez, c'est typiquement le truc qu'on peut lire dans les transports, qu'on peut lire voilà, en marchant dans la rue, en baladant son chien, peu importe. Mais voilà, c'est hyper intéressant comme truc. Ensuite, il y en a une autre qui s'appelle Opal. Et alors, Opal, c'est assez intéressant comme concept. C'est une application qui va bloquer toutes les apps un peu de divertissement, ou alors les réseaux sociaux. Et quand on a du mal à se concentrer, ça peut être une bonne alternative. Avant, il y avait une app qui était très connue qui s'appelait Forest. Et en fait, le but, c'était de laisser pousser un arbre avec l'écran allumé, et que dès que vous vous déconnectiez, dès que vous sortiez de l'app, l'arbre mourait, et donc le but, c'était de le faire vivre le plus longtemps. Sauf que pour moi, ça ne marche absolument pas, c'est 0/10. Donc il me fallait un truc qui soit un peu plus performant. Et Opal, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça agit comme un VPN, et ça va couper les données mobiles pour une app spécifique. Donc en fait, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas accéder à certaines applications, donc Messenger, Facebook, Instagram. Et en ça, je trouve que c'est vraiment cool, parce que ça oblige vraiment, moi j'ai l'équivalent sur Mac, ça s'appelle Focus, pareil, ça bloque les applications. Et en fait, à partir du moment où on arrive à bloquer les réseaux sociaux sur son téléphone et les sites sur lesquels on va sur le web, bah c'est littéralement impossible de faire autre chose que ce qu'on a à faire. Et pour ne pas procrastiner, c'est un des meilleurs trucs que j'ai trouvé. Alors je crois que c'est un petit abonnement, ça coûte quelques euros par mois, mais vous pouvez essayer, il y a un essai gratuit, donc juste essayez, voyez si ça vous va, et si jamais vous trouvez de l'intérêt, n'hésitez pas à payer, parce que je pense que pour quelques euros, ça peut vous les... Si par exemple vous travaillez à votre compte et que vous êtes payé à l'heure ou payé au jour, bah c'est intéressant parce que les 5 euros que vous allez dépenser dans cette app, vous allez sûrement les gagner en temps de concentration, en temps de travail. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Just Watch. Et alors ça, c'est pareil, si vous aimez regarder des films et avec toutes les plateformes de streaming, c'est assez difficile de trouver quel film regarder sur quelle plateforme. Et Just Watch, c'est un truc qui permet... Alors, Allociné le fait aussi, mais j'aime pas trop leur application. Et ça permet de filtrer tous les films et les séries en fonction de sur quelle plateforme il est, d'être averti quand ça sort, etc. Donc, hyper bonne petite application, c'est gratuit, ça s'appelle Just Watch. Ensuite, il y a Alan. Alors, je pense qu'il y a énormément de gens qui doivent connaître. Moi, je connaissais, mais j'avais pas forcément de raison de souscrire. Mais vu que je suis rentré en France, il me fallait une mutuelle. Donc, j'ai souscrit à Alan. Et je paye 53 euros par mois, je crois, précisément. Et pour ce prix-là, c'est assez incroyable. Les compensations qu'ils ont, les remboursements, enfin, ça couvre presque tout. Leur processus pour avoir une mutuelle, enfin, pour s'inscrire à leur mutuelle est juste dingue, il est vraiment, mais littéralement incroyable quand on compare avec d'autres mutuelles où faut envoyer des papiers, bref, c'est une catastrophe. Alan, c'est super simple, c'est super rapide, c'est super efficace et franchement, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont autant de monde. C'est juste des tueurs et pour ça, franchement, bravo s'il y a des gens d'Alan qui écoutent. Incroyable cette application. Ensuite, il y a un autre truc qui est vraiment cool qui s'appelle Infuse. Alors, Infuse, c'est un petit player de films que j'utilise. Moi, j'ai touché Apple. Et en fait, l'avantage de Infuse, c'est si jamais vous avez des séries que vous aviez déjà ou que voilà, qui sont pas sur les plateformes, et ben vous avez la possibilité de justement les regarder en basant tous vos contenus sur le cloud. Alors avant, il y avait un truc qui s'appelait Plex qui permettait de faire la même chose, mais Plex a abandonné cette fonctionnalité de juste d'héberger des films dans le cloud pour les lire. Infuse le permet, et en fait j'ai un abonnement méga, donc c'est l'ancien méga upload de Kim.com sur lequel j'ai tout mon contenu un peu multimédia, que ce soit mes programmes de sport, des films et des trucs comme ça que j'avais. Et au final, je les ai organisés dans une app hyper cool et je peux les lire de n'importe où en basant ça sur le cloud. Et je paye un abonnement méga quelques euros par mois. Et c'est très cool. Et pourquoi est-ce que j'utilise pas Google Drive par exemple? Parce que Google a des robots qui fouillent dans les fichiers et voilà, sur le principe, j'aime pas trop ça. Ensuite, il y a deux derniers trucs duquel je voulais parler, deux dernières découvertes. Enfin, il y en a un, c'est pas vraiment une découverte, mais si jamais vous créez du contenu en anglais ou alors vous faites des vidéos en anglais, il y en a un qui est hyper intéressant, ça s'appelle Descript. Et en fait, cet outil est magique. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur outil que j'ai vu de ma vie, que j'ai découvert de ma vie. C'est incroyable. Ça vous permet d'éditer de l'audio ou des vidéos simplement en éditant le texte. Donc en fait, il va reconnaître la transcription verbale de ce que vous dites, il va le mettre sous un format de doc, et juste en enlevant des mots, vous allez pouvoir faire du montage vidéo, et ça, ou du montage de podcast. Et ça, c'est juste incroyable. Alors évidemment, c'est pas disponible en France, en francophone pour l'instant, mais je pense que ça va arriver. C'est leur requête la plus upvotée sur leur roadmap, donc je pense qu'ils vont s'y plancher un de ces 4. C'est juste que l'anglais, c'est une langue qui est beaucoup plus facile et ils essayent de tout miser sur l'anglais d'abord parce qu'ils ont déjà énormément de clients. Mais voilà, cette app, si jamais vous créez du contenu en anglais, elle est incroyable. Ça s'appelle Descript, Descript. Donc allez voir, c'est vraiment dingue. Et le dernier, c'est Whimsical. Alors, Whimsical, c'est un outil qui permet de faire soit du comment dire de visuel de faire des boards visuels ou alors de faire des mind maps. Moi je l'utilise en mind map. Et l'avantage des mind maps, c'est avant je faisais souvent des doc Notion pour préparer tous mes contenus, mes podcasts. Sauf que en fait l'avantage des mind maps, et on s'en rend pas compte tout de suite, c'est que ça permet de visualiser, et en visualisant ça donne des nouvelles idées. Quand vous faites un doc, il y a tout sur la même page, il y a tout qui est aligné de haut en bas, et en fait vous n'avez pas forcément l'envie de creuser un point spécifique. Par exemple, là dans j'ai une mind map sous les yeux pour avoir un peu un cadre. Sur cette mind map, il y avait le premier truc, c'était ce que j'aime dans Clubhouse. Et en fait, le fait de juste de voir ce que j'aime par exemple ou ce que j'aime pas, et de pas voir de lien au bout de ces deux mots là, ça donne envie de creuser. En fait, plus on creuse, plus ça donne des nouvelles idées. Par exemple, là j'ai mis sur le quatrième point de ce que j'aime, c'est sincère, ça donne plus envie que le podcast d'écouter. Et j'ai mis un autre tiret, exemple, radio libre sous la couette. Et j'aurais pu continuer comme ça de manière infinie. Et en fait, c'est ça que j'adore sur les mind maps. Donc, si jamais vous savez pas trop comment creuser vos idées, aller vraiment au fond de ce que vous avez envie de dire ou ce que vous avez envie de mettre sur papier, si jamais, par exemple, vous avez une idée de business, essayez de faire ça, essayez de faire des mind maps et de creuser le plus loin que vous pouvez creuser sur, par exemple, je sais pas, si vous lancez un business, vous faites typologie de clients, canaux marketing, machin, et vous creusez. Et si ensuite, vous faites dans canal marketing, vous mettez email marketing, et dans email marketing vous essayez de mettre tout ce que vous pouvez faire, et en fait ça a un impact sur la créativité qui est dingue, et je m'étais pas forcément rendu compte de ça avant, donc maintenant je suis devenu un apôtre de la mind map. Et pour ça je vous recommande Whimsical, parce que ils ont un plan avec 3000 éléments gratuits, ensuite faut payer. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est disponible sur le web, c'est pas enfermé dans un écosystème. Vous pouvez partager des mind maps, vous pouvez les exporter au format mind map, bref, hyper bien, donc je vous recommande. Donc voilà, c'était un épisode un peu spécial, c'était un épisode tout seul où je vous ai partagé un peu des pensées, des nouveautés, des découvertes, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, j'en referai sans doute. Si ça vous plaît pas, eh ben dites-le moi aussi, hein, ça m'aidera, juste dites-moi ce qui vous a pas plu. Mais en tout cas, j'ai fait ça pour le test, et si jamais mon podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas aussi à mettre des avis sur Apple Podcast et à vous abonner sur Spotify, ça m'aide beaucoup à être plus visible, et puis aussi à recommander le podcast à des amis. Si jamais vous avez des amis qui ont envie de créer des business, etc., n'hésitez pas à leur partager le podcast, parce que je pense que certains trucs peuvent les aider, alors pas tout, hein, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas ouf, peut-être, mais il y a quand même pas mal de contenu qui est assez cool, je trouve. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, il y a des super interviews à aller creuser et tout, n'hésitez pas à leur parler du podcast. Et si jamais vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube. Voilà, c'est mon dada en ce moment. Je me complais avec mes petites vidéos. Je vais essayer d'en sortir de plus en plus. Mais voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans le Thé au Café. Ciao !